Bonjour, messieurs.
Bonjour, Margot.
Bonjour, Margot.
Comment allez-vous ?
Super, très bien.
En grande forme ?
Toujours.
Comment ça se passe, cette déconfinade du côté du Théâtre de Gascogne ?
Eh bien, ça se passe sereinement, avec pas mal d'impatience, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'on n'était plus dans les théâtres, qu'on n'a pas croisé les spectateurs, qu'on a eu les artistes qu'en visio ou au téléphone. Donc, à un moment, ce besoin de contact revient de manière forte. Et là, voilà, on reprend déjà le chemin du théâtre et on se reprojette dans la suite avec une activité, une actualité assez intense. Donc, le moral est au beau fixe.
Oui, vous avez géré assez vite finalement le déconfinement de vos artistes, parce qu'il y a eu le dispositif Mobile Art qui s'est mis en place relativement tôt. Je crois que c'est la cinquième semaine de confinement que vous l'avez lancé.
Absolument. C'est venu en fait assez rapidement quand on s'est réunis pour la dernière fois pour fermer les théâtres. En fait, ça s'est passé dans un laps de temps quand même très très court. Et immédiatement, on s'est quand même interrogé collectivement pour savoir à quoi on allait pouvoir servir pendant cette période inédite et assez anxiogène qui s'ouvrait devant nous. Avec des questions assez simples, à quoi sert un théâtre dans la société actuelle, à quoi il peut servir dans une période où chacun se retrouve subitement chez soi, coupé des autres, avec du lien social de très très dégradé, alors que par essence un théâtre est là pour justement en générer. Donc de cette réflexion a surgi plusieurs initiatives. La toute première, ça a été le petit gaz confiné, et puis dans la foulée, le dispositif Mobile Art, qui consistait à emmener des artistes, à accompagner des artistes au plus près de publics confinés, voire parfois même surconfinés, en particulier dans les structures médico-sociales, des gens qui ont un degré de mobilité relativement faible, qui déjà tout au long de l'année en période normale restent un petit peu au sein de leur structure et qui là se retrouvaient encore plus contraints qu'avant avec les visites des familles par exemple dans les EHPAD qui n'étaient plus possibles. Enfin, on a pu mesurer le degré d'isolement et de solitude de ces personnes-là, et il y avait aussi une volonté d'aller en soutien auprès des cadres, des soignants, de tous nos collègues de la ville, de l'agglomération, du CCAS, du CIS, qui restait extrêmement mobilisé auprès de ces publics à risque ou fragilisés. Et donc notre réponse, notre manière d'agir, ça a été d'apporter un petit peu de soutien par le biais des artistes, c'est notre savoir-faire, c'est notre mission, et de coordonner un peu tout ça, faire le lien entre ces structures-là, s'assurer du respect des mesures barrières, ce qui était quand même très compliqué à mettre en place au départ, parce qu'on était dans le flou, aller solliciter les artistes, organiser les plannings, veiller au respect justement de cette distanciation sociale, tout en permettant quand même à ces artistes d'intervenir pour apporter un peu de réconfort aux personnes et à ceux qui s'occupaient d'elles.
Julien, en tant que... Alors oui, je le précisais tout à l'heure en vous annonçant, peut-être le repréciser, qu'Antoine, tu es le directeur du Théâtre de Gascogne, et toi, Julien, tu es le responsable de la médiation et du développement du Théâtre de Gascogne. Quel a été ton rôle dans ce dispositif Mobile Art ? Est-ce que c'est toi qui a été chargé de contacter les artistes, les lieux, de créer le dispositif et le parcours ?
Voilà, c'est un peu tout ça. C'est contacter les structures, les artistes, voir quels étaient les gestes barrières, les lieux où pouvaient jouer les artistes, parce qu'il fallait que ce soit en extérieur. Donc souvent dans les parcs, quand il s'agit d'un foyer, ou alors sur une terrasse avec le public à l'intérieur. Voilà, on a essayé de varier un peu les propositions. Donc contacter les artistes et mettre tout ça en place avec Natacha Fradel également du Théâtre de Gascogne. Voilà, c'était une coordination. On avançait par petits pas. On a fait une première semaine test, puis une autre. Et les artistes sont venus aussi par le partenariat du Théâtre de Gascogne et les artistes qu'on côtoie, et également avec des partenaires comme le Conservatoire, le Café Musique, l'IDEM, l'Orchestre Montois, qui ont proposé à certains de leurs artistes de participer au dispositif Mobile Art, qui étaient les artistes là de façon bénévole le premier mois pendant le confinement pour aller une ou deux fois par semaine dans ces structures.
Alors Mobile Art, ça a été plus de 80 interventions, je ne sais pas où en est le compteur aujourd'hui. Tu viens de le préciser, au début c'était bénévole, là maintenant effectivement les artistes sont payés. Est-ce que c'est bon signe pour le futur de la culture de se dire qu'on est en capacité de payer les artistes et de créer de nouveaux concepts en s'adaptant à cette crise et à toutes les mesures que ça implique ?
Absolument. Dans les missions d'un théâtre, il y a également une responsabilité économique que de permettre aux artistes d'exprimer leur art et de pratiquer leur métier pour lequel ils sont rémunérés. Dans l'urgence, il s'agissait de créer le dispositif et d'apporter du soutien, du réconfort à des personnes un peu isolées. Mais très rapidement, on a intégré dans notre réflexion ce besoin d'aider les artistes à se relancer, à revivre quelque part. Et donc, ça passe justement par cette rémunération. Il y a eu tout un processus justement pour mobiliser du budget là-dessus, le faire valider aux membres du conseil d'administration. Tout ne se décide pas comme ça de manière instantanée, mais ça a été planifié. La reconduction du dispositif jusqu'à la fin du mois d'août a été validée, approuvée, financée. Et en plus déployé de manière plus large, on l'a décliné en cinq directions, toujours bien sûr les structures médico-sociales, mais également les écoles, les communes de l'agglomération, le centre-ville, ce qu'on a appelé mobile art sur un plateau, avec ce camion plateau qui a été aménagé pour pouvoir circuler plus facilement dans différents lieux de l'agglomération et du centre-ville pour animer davantage d'espace, aller au contact de davantage de spectateurs. Voilà, tout ça s'est mis en place petit à petit, toujours en lien avec les artistes et avec ce désir d'agir en tenant compte des contraintes sanitaires du moment.
C'est ce que t'expliquais un petit peu, Antoine, dans un article pour Junk Page, un gratuit bordelais, si je ne m'abuse. Tu disais que, effectivement, la liberté dans le monde culturel, c'était de s'adapter à la contrainte et d'arriver à produire quelque chose, quel que soit le contexte.
Oui, ça fait partie de ces qualités qui appartiennent aux artistes que d'être capable d'inventer, d'imaginer, de réinventer, de se re-questionner, de se remettre en question. Et c'est grâce à eux que justement on peut improviser, mettre en place des nouvelles manières de proposer une vie culturelle, des activités artistiques sur un territoire. Et c'est exactement ce que le président de la République a dit à peu près quand il s'est adressé au monde artistique. Il a dit il faut se réinventer. Alors bien sûr, la culture se réinvente depuis des années, c'est pas une nouveauté, mais c'est d'autant plus nécessaire en ce moment pour ne pas rester dans une sorte d'hébétude, d'attentisme. Oui, la manière de fonctionner qu'on a connue, avec des lieux de diffusion ouverts, des parterres remplis, tout ça pour l'instant n'existe plus. On espère tous que ça reviendra, mais c'est pas une raison pour ne pas justement rebattre les cartes et imaginer d'autres manières de faire. Et avec la ressource artistique qu'on a sur le territoire, en croisant les imaginations, en regroupant ces différentes volontés d'agir, de continuer à aller à la rencontre des spectateurs, on arrive à trouver des solutions. Et c'est ce que le Théâtre de Gascogne a essayé de mettre en place ces dernières semaines.
Ça a créé d'autres énergies et d'autres liens aussi entre les artistes et nous. On a l'habitude de préparer des saisons un an et demi à l'avance. Eux ont des tournées qui sont calées un an et demi à l'avance. Et là, on est dans une situation où on travaille ensemble et on dit, mais qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait cet été? On ne connaît pas trop les conditions. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Donc, ça crée une autre énergie et un autre rapport entre nous aussi.
J'allais justement y venir. Comment, dans un tel contexte, on prépare une saison culturelle? Parce que, à situation inédite, j'imagine que saison culturelle inédite pour 2020-2021.
Alors, ça a été un jeu de mikado extrêmement complexe et à la fois extrêmement stimulant. Juste au moment du confinement, la saison culturelle de la prochaine était prête. Le planning, les spectacles étaient posés sur le planning, les négociations avaient eu lieu avec les artistes et on s'apprêtait à rentrer dans une période de plutôt axée sur la communication, la rédaction de la brochure, la finalisation des contrats et patatras. La Covid arrive et tout notre château de cartes qui était bien préparé s'effondre. Immédiatement, en lien étroit avec chacun des collectifs artistiques avec lesquels on s'apprêtait à travailler, on a repensé l'avenir, on a replanifié en essayant d'imaginer différentes possibilités. Donc, prendre une date, d'abord reporter les spectacles qui n'ont pu avoir lieu ces derniers mois, voilà, pour ne pas assurer nos engagements en faveur des artistes et ne pas priver le public. Donc ça a été l'étape 1, de prendre ces spectacles et de tout de suite reventiler ces dates-là sur la saison suivante, en les intercalant au milieu d'autres spectacles déjà préparés. Et ensuite, d'envisager souvent une date de report entre septembre et décembre 2020, puis une autre entre janvier et juin 2021, et parfois même encore une autre sur la saison 21-22. Voilà, la priorité, c'était de dire, on va assurer notre engagement auprès de vous. Vous viendrez à Mont-de-Marsan et on va essayer de trouver la date la plus adaptée pour que le jour de votre venue, la représentation puisse se faire dans de bonnes conditions. On ne sait pas à l'heure actuelle quelles seront les mesures sanitaires en vigueur au mois de septembre. Donc on a travaillé en partant d'une hypothèse de travail assez défavorable et en pensant l'offre artistique de manière la plus fine et la plus adaptée possible. Je prends un exemple, des spectacles qui nécessitent une grosse jauge, un concert par exemple, ça serait ridicule, absurde et dommage de le programmer avec seulement 150 personnes en face. Ça casserait complètement la magie de la rencontre, ça casserait l'ambiance, l'énergie de ce moment-là, et donc ça ne serait pas un beau moment de spectacle vivant. Donc dans ce cas-là, il vaut mieux attendre un peu, c'est frustrant de déprogrammer quelque chose qu'on a mis parfois des mois à faire venir, à négocier, à caler dans le planning. On a préféré le mettre un peu plus tard, à un moment où on a plus de chances de pouvoir donner cette représentation dans de très bonnes conditions et surtout devant un maximum de spectateurs à ce moment-là. Donc voilà, on a évolué avec les artistes, main dans la main. Donc ça demandait énormément de relations avec eux, de négociations. Ils ont aussi eux-mêmes leurs contraintes. Est-ce qu'ils seront en tournée? Quel type de tournée? À quel endroit? Géographiquement? Est-ce que d'autres théâtres faisaient marche arrière? Est-ce que d'autres, au contraire, assumaient leurs dates? On a par exemple, pour citer une anecdote, un collectif chinois, d'artistes chinois, ils seront presque une soixantaine, prévus en février 2021. Donc vous imaginez bien que programmer de l'opéra chinois dans le contexte avec ce virus qui apparemment est né là-bas, toutes les incertitudes, est-ce que les artistes internationaux pourront venir en France, est-ce qu'ils auront le droit, est-ce que nous pourrons les accueillir, est-ce qu'on pourra les accueillir dans de bonnes conditions. On était plus d'une dizaine de théâtres en France à nous être mutualisés pour faire cette tournée. Est-ce que certains avaient la tentation de se désengager? Certains n'avaient pas de réponse. Voilà, tout ça était pas simple. Et donc, il y a eu beaucoup d'interactions entre tout le monde pour justement pouvoir proposer une saison culturelle Covid compatible. C'est-à-dire, quel que soit le contexte sanitaire en septembre, qu'on soit en mesure de proposer aux spectateurs de Mont-de-Marsan une offre artistique valable, recevable, dans de bonnes conditions. Donc, c'est ce qu'on a fait avec toute l'équipe et c'est ce qui sera présenté dans quelques jours.
Alors, un spectacle Covid compatible, on imagine tout de suite les distances entre les spectateurs et la scène. Moi, mon dernier souvenir dans un théâtre, alors c'était pas pour assister à un spectacle, mais c'était pour interviewer Nicolas Bonneau le 13 mars dernier. Son spectacle avait été annulé une première fois, puis maintenu finalement sous forme de deux spectacles dans la même soirée avec 90 personnes maximum dans la salle. Et ça m'a fait penser à l'interview que j'ai eu la chance de faire d'Ariane Ascaride, qui me disait que la différence qu'elle ressentait entre le théâtre et le cinéma, c'était qu'il y avait cette proximité avec le public, qu'il y avait quelque chose de nouveau chaque soir qui se passait avec le public, parce que voilà, il y avait ce lien très fort avec le spectateur dans la salle. Tu l'as évoqué, Antoine, ça risque d'être modifié si toutes ces normes sanitaires sont maintenues pour des mois à venir. Est-ce que vous pensez tous les deux que ce lien va être modifié à cause de ces nouvelles conditions? Est-ce que ça peut continuer à exister ou pas?
Alors, il faut que ça continue à exister. Nous, on va mettre en place les conditions les plus favorables possibles pour qu'un spectacle puisse se dérouler avec le plus de personnes possible tout en respectant ces règles. Et ensuite, il faut faire confiance aussi aux artistes, je pense, pour maintenir ce lien, parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans le spectacle vivant. Et on peut faire confiance, je pense, aux artistes en général pour inventer des nouvelles choses, pour intégrer ces contraintes à leur spectacle, à leur pratique artistique, et en faire une force. Et ça, je pense que beaucoup de monde arrivera à le faire dans les mois à venir.
Et puis vaut mieux être en mesure de le faire quand on joue dans les arènes de Mont-de-Marsan, parce que j'ai ouï dire que 3 spectacles étaient programmés pour la rentrée dans les arènes montoises, histoire d'être sûr d'avoir suffisamment de place et suffisamment de public, parce que des spectacles de taille.
Absolument, il ne s'agissait pas de reformater la saison culturelle en supprimant tous les grands spectacles, en interdisant les ballets, les grosses distributions et tout ça. Il s'agissait d'essayer d'offrir un maximum de formes tout en tenant compte des conditions de représentation, mais également du modèle économique qui sous-tend la culture. Il ne s'agit pas de fragiliser le théâtre de Gascogne, qui serait pénalisé à l'avenir dans ses missions de soutien aux artistes. Parce qu'au final, ce seraient les artistes qui seraient pénalisés si en 2021 ou en 2022, on n'avait plus cette capacité de les accueillir pour de la création, pour présenter leur spectacle, pour rencontrer les publics. Donc il y a aussi cet élément-là qui a été au cœur de nos réflexions. Et on a cette chance à Mont-de-Marsan, d'abord, d'avoir trois lieux de diffusion. C'est-à-dire que tous les spectacles, qu'ils aient été prévus initialement au Molière ou au Péglé, auront lieu au pôle, à part quelques exceptions au Molière, mais au pôle. Donc un spectacle qui pouvait jouer, qui était prévu pour jouer au Péglé devant 188 personnes, pourra jouer au pôle tout en respectant des mesures sanitaires strictes, devant à peu près le même nombre de spectateurs. Donc voilà, une manière de préserver un peu cet équilibre-là. Mais on a aussi également cette chance d'avoir les arènes. Or, dans les arènes, tout en respectant des mesures barrières, on peut y mettre le même nombre de spectateurs qu'au pôle, soit 600 personnes. Donc, on maintient l'équilibre, on offre une grosse forme avec un public fourni. Voilà. Donc, on respecte, on préserve la qualité de la représentation et de ce moment. Voilà. Il ne s'agit pas de la brader, il ne s'agit pas de faire un spectacle pour faire un spectacle, mais dans de mauvaises conditions. Voilà. Effectivement, les trois premières dates de la prochaine saison sont des reports de spectacles qui devaient avoir lieu ces derniers mois et qui auront lieu dans les arènes pour offrir un vrai moment festif, un vrai moment de communion entre les artistes et les spectateurs.
Et on aura toute la suite de la programmation dès la semaine prochaine, puisque c'est lundi prochain, c'est ça que...
Absolument, à 15h.
Que la programmation sera révélée. Et évidemment, nous serons au rendez-vous pour nous en faire, et évidemment, l'écho. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés ce matin en studio chez Radio MDM, sur Radio MDM, comme vous voulez. On vient un petit peu à la maison ici aussi.
Merci beaucoup, Margot.
Merci.
À très bientôt.